Les défis sociaux et environnementaux sont d'une ampleur sans précédent. Changement climatique, érosion de la biodiversité, inégalités sociales, démocratie en berne. Face à ces défis, de plus en plus de profs se mobilisent et se demandent comment adapter leurs cours pour préparer les étudiants aux enjeux clés des transformations écologiques et sociales.
Comment intégrer les enjeux de la transition en pratique dans les auditoires? Faut-il créer un nouveau cours transversal obligatoire? Faut-il seulement intégrer ces enjeux dans certains cours à option?
Quelles sont les connaissances et les compétences que les diplômés de demain doivent acquérir?
Ne faut-il pas aussi adapter les méthodes pédagogiques et aussi les dispositifs d'évaluation?
Avant de tenter de répondre à toutes ces questions, je vous propose d'aller voir d'abord du côté des étudiants et des étudiantes pour essayer de percevoir ce qu'ils pensent de leur formation et des défis qui sont devant eux. Quel est le niveau de connaissance des étudiants concernant les changements climatiques en cours? Jugent-ils leur cursus adapté pour faire face aux défis écologiques et sociaux? Au fond, qu'attendent-ils de leur formation et des profs qui les accompagnent? Bienvenue dans Former pour transformer, un podcast de Louvain Learning Lab, le centre d'accompagnement pédagogique de l'UC Louvain. Je suis Marie-Amélie Lénartz et ce podcast est le fruit d'un travail d'équipe réalisé avec mes collègues conseillères pédagogiques au sein du Louvain Learning Lab. Pour rencontrer les étudiants et les étudiantes, rendez-vous dans les rues de Louvain-la-Neuve le jour de la rentrée académique. Je commence ma petite enquête en me rendant place Montesquieu. Il fait beau, il fait chaud, ça sent la bonne humeur de la rentrée et les saucisses grillées.
Bonjour. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Je travaille pour l'UC Louvain.
Quand on parle de transition, le moins que l'on puisse dire, c'est que tout le monde ne voit pas exactement de quoi on parle.
La transition de la société. T'as une idée, toi?
J'avoue, comme ça, c'est...
La transition de la société... Je n'ai pas vraiment d'idée sur la question.
Le développement durable, ça veut dire quoi? Le développement durable.
Durable, hein? Ouf.
Pour d'autres étudiants, cela semble déjà un peu plus clair.
Pour moi, c'est un changement dans la manière de consommer, si on parle de transition du coup écologique, la manière d'envisager l'entrepreneuriat, les entreprises. On ne peut pas vraiment avoir une bonne transition écologique si le modèle économique ne suit pas.
J'ai ensuite tenté une question un peu plus complexe en questionnant les étudiants sur les limites planétaires.
C'est pas avec Meadows. En gros, il y a des courbes sur les ressources naturelles et notre consommation. Et notre consommation est en courbe exponentielle. Et concrètement, ça colle pas avec les ressources naturelles qui sont minimes par rapport à notre consommation.
J'ai donc discuté durant 2 heures avec les étudiants, un peu partout dans Louvain-la-Neuve. Et assez vite, je me suis rendu compte que le niveau de conscience et de connaissance des grands concepts et des enjeux est bien différent d'un étudiant à l'autre. Autre question que j'ai posée aux étudiants, estiment-ils que les enjeux de la transition socio-écologique doivent être abordés dans toutes les formations, dans toutes les disciplines?
Dans nos études, c'est pertinent d'avoir tous les enjeux climatologiques.
Sophia, étudiante en bac 3, ingénieur civil.
Et donc, par exemple, ce ne serait pas pertinent d'avoir de la politique, mais je me dis peut-être dans d'autres études que ce ne serait pas pertinent d'avoir des cours sur l'écologie. Vous voyez? Parce que si jamais, je ne sais pas, quelqu'un qui fait roman, qui étudie la littérature, je ne vois pas vraiment en quoi, après, quand il aura son diplôme et qu'il va travailler dans le domaine littéraire, il va pouvoir vraiment avoir un impact, vous voyez. Tandis que nous, en tant qu'ingénieurs, on a quand même une responsabilité, entre guillemets, à ce niveau-là, je trouve.
Donc, selon Sophia, cela aurait moins de sens d'aborder ces sujets dans une formation en langue et lettres romanes. J'ai justement eu l'occasion de discuter par après avec Zélie, fraîchement diplômée de langue romane et qui ne partage pas du tout cette vision.
Pour ma faculté, en tout cas, je pense qu'il y a énormément de gens de ma faculté qui finissent dans l'enseignement. Et c'est quand même un point de départ hyper important dans la construction des individus, des citoyens, de leurs valeurs et de leur mode de vie. Et du coup, bah, aborder cette thématique et sensibiliser les futurs professeurs, c'est quelque part sensibiliser un jour les futurs élèves. Et du coup, pour ça, je trouve que ce serait hyper important de l'aborder.
Malheureusement, elle trouve que ces sujets sont trop peu présents dans son cursus.
J'ai eu énormément de cours de littérature sur différents auteurs, différentes thématiques fortes. J'ai notamment eu des professeurs qui ont pas mal parlé de féminisme, de la place de la femme dans les livres et dans la société, et je trouve ça super intéressant. Et du coup, je me dis que la littérature parle de tout, et c'est un des attraits et un des points qui la rend si passionnante pour tout le monde et pour mes professeurs. Et donc, je me dis forcément, il doit y avoir une conscience écologique dans la littérature et chez certains auteurs, dont certains très célèbres que j'ai découvert seulement par après et récemment. Et ça, je trouve que ça manque, ou j'aurais aimé que ce soit quelque chose que mes professeurs nous fassent ressortir et nous partagent, et pas que ce soit si longuement et par mes propres cheminements et recherches que j'y sois arrivée.
À travers ces premiers témoignages d'étudiants, on perçoit à la fois des niveaux de connaissances, des enjeux très différents, mais aussi des attentes très diverses. Ces réponses ne surprennent pas Benoît Galland, chercheur et professeur en sciences de l'éducation, puisqu'aujourd'hui, à l'UCL Louvain, l'intégration des enjeux de la transition dans les enseignements est toujours en construction. Et même si les facultés avancent, et certaines plus vite que d'autres, il y a un débat au sein des équipes pédagogiques sur quelles connaissances liées à la transition et quelles compétences intégrer dans les programmes de formation.
Est-ce que l'important, c'est que les jeunes comprennent qu'est-ce que ça veut dire transition, qu'ils connaissent la définition de durabilité, qu'ils sachent ce que c'est les limites planétaires, ou il y a d'autres enjeux, d'autres connaissances, par exemple sur qu'est-ce qu'on peut faire pour agir, c'est-à-dire quelles sont nos activités qui impactent sur ces limites planétaires et sur la durabilité, quelles seraient les alternatives à ce qui existe aujourd'hui, voire même des connaissances sur, ok, mais qu'est-ce que moi je peux faire et comment je peux le faire, y compris comme citoyenne ou comme citoyen, dans le domaine où je fais mes études. C'est quoi les leviers d'action si je veux que les business models changent, que la façon dont on soigne les gens change, tous ces enjeux-là, où est-ce que ça s'arrête? Avec des vrais questionnements, peut-être parfois des tensions, entre la place finalement des connaissances ou de la théorie et la place à donner à la pratique et plutôt à des compétences et des savoir-faire.
Pour savoir ce que les étudiants pensent de cette question, quelles connaissances et quelles compétences transmettre à l'université en lien avec les questions de transition, je décide d'organiser un focus group avec quelques étudiants volontaires. Je lance un appel sur les différents réseaux de l'UC Louvain et sur 7 réponses positives, 5 sont des ingénieurs civils. Je suis assez étonnée et fais part de mon étonnement à Benoît Galland.
C'est clair que pour l'instant, l'EPL, par exemple, est dans une réflexion par rapport à ça. Donc les étudiants sont déjà, quelque part, sensibilisés, mais aussi armés pour avoir quelque chose à dire, parce qu'ils ont déjà probablement un peu réfléchi ou entendu parler de la question. Il y a probablement d'autres facultés où c'est pas que c'est pas présent dans les cours, mais c'est pas un sujet de débat ou de discussion dans la communauté de la faculté. Et donc peut-être les étudiants simplement se sont dit « je ne suis pas pertinent pour parler de ça » ou « je ne saurais pas quoi dire ». Donc c'est très très difficile de juger pourquoi, mais ça reflète probablement en partie le fait que pour l'instant, il y a une dynamique en EPL autour de ça.
Donc, une première raison qui expliquerait pourquoi ce panel était en majorité constitué d'étudiants en ingénieur civil est le travail d'adaptation des cours actuellement à l'œuvre au sein de la faculté. Mais pour Benoît Galland, ce n'est pas la seule raison. Il avance aussi l'idée que les questions liées aux enjeux de la transition remettent en question l'identité même des ingénieurs.
On voit bien que c'est des éléments qui vont faire peut-être plus débat dans certains types de formations, clairement dans la formation des ingénieurs, parce qu'on voit bien qu'on arrive à une limite aussi d'un modèle qui est dû à certaines approches techno-économiques, un certain modèle de développement, et voilà, et que les ingénieurs sont en première ligne par rapport à ça, et aussi par rapport à des solutions, parce qu'on leur demande de trouver d'autres façons de faire. Là où, ben, pour prendre une fac que je connais bien, c'est la psycho, les psychologues sont moins en train de se poser 20 000 questions là-dessus, parce qu'ils sont déjà plus dans une logique, nous on est là pour prendre soin des personnes. Et donc, il ne va pas y avoir un débat, il va y avoir dire, ok, il faut qu'on intègre la question du changement climatique, notamment sous forme d'éco-anxiété. Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces gens qui commencent à se poser des questions sur l'avenir, qui se sentent en tension entre leurs valeurs et ce qu'ils font dans leur vie quotidienne, qui ont l'impression que le système est bloqué? Voilà, on va plutôt gérer ça. Mais ça ne remet pas fondamentalement en question l'identité du psychologue. Alors qu'on sent bien que les questions de transition, de durabilité, elles viennent confronter beaucoup plus l'identité, si on veut, des ingénieurs.
Mm-hmm. On va commencer par un tour de table. On fera votre prénom, vos études, l'année dans laquelle vous êtes.
Avec les étudiants du Focus Group, je suis partie d'une question simple. Êtes-vous satisfait de la manière dont la transition écologique et sociale est aujourd'hui traitée dans votre cursus ? Sinon, que manque-t-il ?
Bonjour, moi c'est Maude, je suis étudiante en Master 1, ingénieur civil orientation électricité. Et plus tard, j'ai envie de faire un travail qui corresponde à mes valeurs.
Pour Maude, il y a bien un cours dédié à la transition et au développement durable, un cours à option, en bac 3, mais elle déplore que le sujet ne soit pas intégré de manière transversale dans l'ensemble du programme de bachelier.
Nous, on avait le choix entre deux cours, et un des cours était un cours de développement durable, donc il n'était pas obligatoire, et dans ce cours-là, on a aussi fait une carte conceptuelle du changement climatique, les causes, les effets, et trouver les liens entre tout. Et puis, on a appris sur les analyses de cycle de vie, les bilans carbone des technologies. Mais ça reste un cours au milieu de plein d'autres cours très théoriques. Ce n'est pas du tout transversal chez nous. C'est-à-dire que c'est un cours au milieu de plein d'autres qui n'ont rien à voir. Et par contre, en master, il y a quand même plus de profs qui sont engagés. Et donc, on retrouve les thématiques un peu plus dans leurs cours. Et idéalement, on devrait retrouver des thématiques de transition écologique dans plus de cours et en parler plus souvent.
Victoria, en bac 2 ingénieur civil, partage cet avis.
Pour moi, un cours, ça ne suffit pas. Même si on avait un cours par an, entre guillemets, ça ne suffirait pas parce que c'est quelque chose qui doit être abordé de plein de manières différentes. Et j'ai l'impression qu'on pourrait inclure cet enjeu dans plein de cours, finalement, parce qu'on amène toujours les sujets des cours selon un angle, un point de vue, etc. Et d'ailleurs, on parle beaucoup pour le moment d'apprentissage par projet, d'APP. Mais c'est clairement une opportunité incroyable qui peut nous permettre justement d'intégrer ces enjeux de transition écologique et même au-delà de ça, de faire réfléchir les étudiants à comment aborder ces thématiques-là.
Une autre demande des étudiantes et des étudiants présents ce jour-là est d'être amenée à développer sa capacité à travailler en interdisciplinarité.
Des cours interfacultaires, comme ce cours d'introduction à l'ingénierie de la biosphère, quelque chose comme ça, qui se fait entre facultés. Mais c'est quelque chose de très, très riche, j'ai l'impression, autant pour les étudiants que pour les professeurs, parce qu'on amène des esprits qui sont formés de manière différente à réfléchir sur la même thématique. Et ça, c'est précieux et c'est super riche.
Pour Victoria, il faut donc apprendre à dialoguer avec des étudiants, mais aussi des experts d'autres disciplines scientifiques. Mais pour la jeune étudiante, l'interdisciplinarité, cela passe aussi par l'apprentissage de connaissances issues d'autres champs disciplinaires, comme la biologie.
Là-dessus, l'exemple le plus flagrant, c'est qu'on n'a absolument aucun cours de biologie. Et je pense qu'en tant que futurs ingénieurs, donc qui allons travailler sur des technologies, ça me paraît assez étrange qu'on n'ait aucune base sur le monde vivant, alors que nos technologies doivent apprendre à s'intégrer dans le monde vivant. Et au-delà de ça, si on nous apprend à travailler sur une technologie pour capter du carbone et qu'on ne sait pas que la meilleure captation des carbones se fait via un arbre, ben pour moi, on est en dissonance quelque part.
Mathias, étudiant en master ingénieur civil, mentionne, lui, l'intérêt de s'ouvrir à la philosophie et la sociologie. Des matières qu'il a notamment pu découvrir dans le cadre du cours Energetics, un cours proposé dans certains masters d'ingénieurs.
Donc c'est des différents séminaires sur le domaine de l'énergie. Forcément, comme on est en fac d'ingénieur, c'est beaucoup des aspects techniques comme la gestion du gaz, le rôle du carbon capture dans la transition, ce genre de choses. Mais il y avait aussi des séminaires, par exemple, sur la philosophie de la transition, avec comme oratrice Charlotte Leux, donc, qui est philosophicienne à Lucilvain. Et aussi un aspect plus sociologique de la transition, donc des thématiques en fait, qu'on n'avait jamais l'habitude de côtoyer, d'aborder, et qui nous ont été présentées en fait, dans un cadre ingénieur, entre guillemets, mais qui étaient extrêmement intéressantes, je trouvais, et très pertinentes, parce que justement, on n'en entendait jamais parler, et maintenant, on avait l'occasion de s'ouvrir à quelque chose d'autre que juste les aspects techniques de la transition, et réaliser qu'il y avait beaucoup plus à faire que simplement arranger du câblage électrique et des machines pour résoudre ce problème qui est totalement plurifactoriel. Notamment, ce qu'elle avait abordé, c'était la relation entre l'homme et la nature, qui a énormément évolué. On est passé donc d'une relation plus en accord avec la nature à une utilisation de la nature comme instrument, mais vraiment de l'exploiter. Et donc, c'est ce changement de relation par rapport à la nature qui, fondamentalement, est ancré dans notre société et qui définit un peu la manière dont nous percevons le monde qui nous entoure.
Alors, faut-il davantage développer des approches interdisciplinaires ou pluridisciplinaires dans les cursus ? J'ai posé la question à Benoît Galland, et pour lui, la réponse n'est pas évidente.
Alors déjà dire qu'en fait, c'est déjà ce qu'on essaie de faire dans beaucoup de programmes de bac. Quand on regarde beaucoup de programmes de bac, c'est des formations très généralistes en fait. Ils ont un petit peu de philo, un peu de stats, un peu de ceci, un peu de cela, dans l'idée de les ouvrir un petit peu et d'avoir une formation qui n'est pas trop spécialisée au début. Ce qui peut poser parfois problème, parce que déjà, il y a des étudiants qui ne retrouvent pas du tout leur compte. Ils disent « moi, j'ai choisi les études de droit ou d'ingénieur », et puis ils disent « là, je me farcis des tas de cours, j'ai un cours là-dessus, et je sais que plus jamais après, j'en ferai, et je ne vois pas ce que ça m'apporte ». Et donc, on peut parfois se poser la question de savoir « est-ce que ça ne serait pas mieux que ces cours d'ouverture, en fait, à d'autres choses, ils viennent beaucoup plus tard dans la formation ?» Quand les étudiants ont eu l'occasion de s'insérer dans une vision disciplinaire beaucoup plus forte, ou en tout cas d'une perspective d'orientation, j'oserais pas dire de métier, mais en tout cas d'une orientation, et qu'ils savent un peu qui ils sont, ce qu'ils veulent faire, etc., et qu'ils disent, bah tiens, en fait, la philo, finalement, ça pose des questions vachement intéressantes auxquelles j'avais pas pensé. Mais en fait, en premier bac, c'est des questions qui me sont passées vraiment au-dessus de la tête. Voilà. D'autres disent, il faut maintenir cette idée qu'au début, c'est une formation très générale, on leur donne des bases, d'ailleurs, comme ça, on peut favoriser la réorientation au sein de différents programmes. Faire de l'interdisciplinarité quand on n'a pas déjà un peu des bases sur un sujet, c'est très compliqué. C'est-à-dire, à un moment donné, les gens qui sont un peu novices dans le domaine, si c'est pas bien amené, si c'est pas bien accompagné, ils risquent juste d'être noyés par une somme d'informations qui va dans tous les sens, et peut-être qu'ils vont trouver ça très chouette au moment même, mais quand on va regarder ce qu'il en reste quelques semaines ou quelques mois plus tard, il restera pas grand-chose. Ils auront En termes d'idées, ils auront papillonné, on dirait. Ils ont été très stimulés. Mais ce qu'on espère aussi, c'est pas juste qu'ils apprécient le moment, c'est qu'il en reste quelque chose qu'ils vont garder après pour leur vie et pour leur future vie professionnelle et personnelle. Donc il y a cet enjeu-là de dire attention à comment est-ce qu'on peut gérer ça le mieux possible pour que vraiment ça soit une occasion de construction d'apprentissage chez les étudiants et pas juste une expérience où ils ont dit « Ah oui, il y a eu un moment qui m'a marqué, je m'en souviens ». Mais en fait, quand on les interroge très concrètement sur qu'est-ce qu'ils en ont retenu, qu'ils savent utiliser ou exploiter dans leur vie future, en fait, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est vraiment un vrai challenge. Et ça pose après des questions d'organisation et de coût du travail pour les enseignants, puisque du coup, il faut quand même se parler entre disciplines, il faut pouvoir organiser ça au mieux et voir comment on peut intégrer ça.
Enfin, après la transversalité et l'interdisciplinarité, une troisième attente soulevée par les étudiants du focus group est l'importance de la pratique pour compléter un bagage de connaissances théoriques, mais aussi l'apprentissage de compétences dites « soft skills ». Maud pense que les activités extra-académiques, comme son engagement dans Ingé en transition, devraient davantage être valorisées car elles permettent de développer des compétences complémentaires à la formation d'ingénieurs.
Chez nous, on a des doctorants qui ont formé un groupe qui s'appelle Ingé Transition. Il y a trois grandes lignes. Il y a un Wikipédia collectif dans lequel on se partage nos petits livres sur la transition, sur des gens engagés, des films, des documentaires, etc. Et puis, il y a aussi un projet low-tech. Cette année, on a construit un panneau thermique donc qui réchauffe de l'eau grâce à l'énergie solaire et du coup, avec des matériaux recyclés. Et puis, il y avait aussi pas mal de soirées qui étaient organisées avec des ingénieurs actuels qui venait nous expliquer, ok, ben voilà, moi c'est mon parcours, comment moi j'arrive à me situer avec les études que j'ai faites, comment j'arrive à me situer par rapport à mes valeurs et comment j'arrive à agir pour la transition. Et honnêtement, je trouve que le projet était super chouette. Moi j'ai participé à beaucoup de tables rondes et ça m'a beaucoup aidé dans ma réflexion et aussi de se rendre compte que voilà, il y a d'autres élèves qui se posent les mêmes questions, les doctorants ils sont investis, les doctorants ils connaissent des profs qui sont engagés aussi et honnêtement ça aide beaucoup pour trouver une place en tant qu'ingénieur. De se dire que voilà, au début, à un moment, j'étais là, ok, j'arriverai pas à trouver un job qui correspond à mes valeurs en tant qu'ingénieur. Et ça m'a redonné un peu d'espoir de me dire, ben, j'arriverai peut-être à trouver quelque chose qui me correspond.
Pour Benoît Galland, effectivement, on ne peut pas se limiter à équiper les étudiants en connaissances.
juste informer, voire juste alerter sur des risques, faire prendre conscience de dangers qui peuvent arriver, c'est ce qui est le cas, clairement, avec les questions environnementales en général, c'est pas très efficace pour mobiliser les gens si on leur donne pas en même temps un sentiment de pouvoir agir, un sentiment d'un peu avoir au moins un espace de contrôle sur ce qui se passe. On peut discuter de jusqu'où on va, mais se dire qu'on va se contenter d'informer sans en même temps équiper les gens de moyens d'action, c'est aller contre ce qu'on sait aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est mettre les gens dans des situations inconfortables qui peuvent soit les amener à de l'anxiété, mais aussi à se désengager complètement en disant « voilà, je peux faire du déni » ou dire « de toute façon, on ne sait rien y faire » ou à se replier vers des illusions où la technologie va tout solutionner, etc.
Il y a une dernière réflexion des étudiants que j'aimerais aborder dans cet épisode. C'est Zélie qui l'a formulée, cette jeune diplômée en langue romane avec qui j'ai discuté sur les marches de la Grand Place de Louvain-la-Neuve. Zélie trouve dommage que les enseignants ne fassent pas part de leurs ressentis et de leurs questionnements en tant que citoyens durant les cours.
Même si les thèmes ou les sujets des cours ne se prêtaient peut-être pas le plus à aborder la transition, dans leur comportement, je trouvais qu'il y aurait pu avoir des petits signes comme quoi c'était une préoccupation et qu'ils essayaient de la mettre en avant. Et du coup, ça, je trouve ça assez dommage. Ouais.
Un regret qui fait écho à l'analyse de Benoît Galland, qui souligne que l'enseignant est aussi un modèle d'adulte pour les étudiants.
Au-delà du contenu, au-delà des dispositifs qu'on va imaginer, il y a aussi comment on s'implique, c'est-à-dire qui on est comme personne et comment personnellement on est impliqué ou pas. On peut avoir un super discours, on peut avoir conçu un dispositif génial. Si les étudiants et les étudiantes, ils ont l'impression qu'en fait la professeure ou le professeur est juste là parce qu'elle doit être là et donner ses heures. Voilà, c'est aussi l'idée d'exemplarité. Dans d'autres approches, on va parler de modèle. Quel modèle d'adulte on va donner nous-mêmes comme enseignants et comme exemple de positionnement, en fait, par rapport à toutes les questions qu'on a évoquées dès le début, c'est-à-dire c'est quoi mon rôle d'enseignant, c'est quoi mon rôle comme acteur universitaire, mais c'est quoi mon rôle comme citoyen et comme adulte dans une société par rapport à ces enjeux-là et comment moi je me positionne et je sais pas tout faire. Et je pense que c'est parfois intéressant qu'on puisse en parler avec les étudiants, qu'on soit peut-être plus transparent plutôt que de ne faire comme si ça n'existait pas et de passer ça sous silence, alors qu'en fait les étudiants ils voient bien comment on est, comment on parle. Et de toute façon, ces enjeux, pour eux, ils sont là. Dire, en fait, moi, je suis neutre et je donne juste mon cours, c'est déjà prendre une posture presque politique, en fait. Voilà, et je pense que les étudiants, c'est aussi, en tout cas certains, c'est vraiment ça qu'ils sont en demande. C'est pas juste un meilleur cours, c'est d'avoir en face d'eux des gens qui tiennent debout et qui leur disent, ben voilà, moi, ça, c'est des choix. Voilà les questions que je me pose, voilà les tensions dans lesquelles ça me met, voilà les choix que j'ai faits. Et vous pouvez ne pas être d'accord, mais voilà comment moi, aujourd'hui, je gère ça et j'assume ça. Et puis après, faites votre chemin, mais au moins, on peut discuter et vous savez où j'en suis.
Voilà, ce premier épisode est un peu parti dans tous les sens. Sûrement parce qu'aujourd'hui, il y a plus de questions que de réponses sur comment former pour transformer. Toutes ces questions, nous allons tenter d'y répondre au cours des prochains épisodes de ce podcast, en compagnie d'enseignantes et d'enseignants qui expérimentent, dans les auditoires, des méthodes pédagogiques différentes, parfois innovantes, autour des enjeux de la transformation écologique et sociale. Merci à tous les étudiants et les étudiantes qui ont pris le temps de répondre à mes questions, en particulier ceux et celles qui ont consacré 2 heures au focus group. Merci de nous avoir suivis dans ce numéro et merci à Jonathan Remy pour la réalisation sonore de ce podcast. Si vous voulez réagir à cet épisode, nous suggérer des questions à creuser ou des noms d'enseignants dont les pratiques et les témoignages peuvent inspirer les enseignants qui nous écoutent, vous pouvez nous écrire à l'adresse lll-transition@uclouvain.be. Merci et à bientôt.